Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mai 2026 et vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous suivrons la 21e partie du thème « Ce monde que nous devons haïr ». Trois textes de référence en ouverture de notre méditation qui sont psaume 2, verset 8, Matthieu 16, 18 et acte 9, 15. Nous commençons par psaume 2, verset 8, où il est écrit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Matthieu 16, verset 18, il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Acte 9, 15, il est écrit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Le tentacule que nous sommes en train d'examiner est celui représenté par Rome. Il concerne la ligne politique du système luciférien que la Bible désigne comme le monde que nous ne devons pas aimer. Nous avons vu dans la précédente méditation que la politique est la gestion de la cité. Elle consiste à œuvrer au vivre ensemble harmonieux entre les différentes composantes de la société, à travailler au bien-être et à l'épanouissement de tous au sein de la société. Vu sous cet angle, la politique est et devrait être l'affaire de tous. De fait, chacun doit se sentir responsable d'apporter sa pierre à l'édifice de la chose commune. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé le contrat social. Mais force est de constater que pour des raisons multiples, justifiés ou pas, les disciples de Christ, dans leur grande majorité, se sont mis complètement en retrait de la chose politique. Ce faisant, elle est devenue l'affaire des païens, des incirconcis, des impies, des religieux. Les véritables enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, la trouvent trop sale, trop polluante. En effet, quand on considère l'univers de la politique, on ne peut que s'en méfier, tant ce qui s'y déroule est cynique et profondément machiavélique. Toutes ces choses justifient la frilosité que l'Église éprouve, que l'Église en éprouve, la confortant dans sa mise à l'écart, et achève de nous convaincre qu'elle fait bien de ne pas s'y mêler. Mais que dit vraiment la parole de Dieu à ce propos? Hier, nous avons vu que le terme « ecclésia » désigne de façon générale et dans le contexte dans lequel le Seigneur l'a employé, une assemblée législative, une institution qui est associée au pouvoir du roi. Le terme « ecclésia » est par conséquent un terme politique plutôt que religieux. Ainsi, quand le Seigneur Jésus disait « Je bâtirai mon Église », il pensait à une institution politique associée à son pouvoir. Car avant lui, il existait dans les nations des ecclésias, des parlements ou des sénateurs qui étaient l'extension du pouvoir du roi tout en représentant le peuple. C'était aussi à travers les ecclésias que les rois géraient la cité. Or, ces rois et leurs ecclésias, ne connaissant pas Dieu, ne s'étaient jamais souciés de faire les choses selon les valeurs, les principes et la volonté de Dieu. Par conséquent, la politique est devenue méconnaissable. Pouvait-elle en être autrement? Mais est-il raisonnable de notre part d'espérer des fils des ténèbres qu'ils gèrent les affaires de la cité selon les principes de la lumière? Les arbres ne donnent-ils pas des fruits selon leur espèce? Matthieu 7, verset 16 à 20 dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, 16 à 20. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église n'a pas à se plaindre de la corruption qui caractérise les milieux politiques. Église, nous ne devons guère être surpris de voir que la politique rime avec mensonge, démagogie, crime, injustice, corruption, vol, détournement, népotisme, satanisme, occultisme, mysticisme, guerre, assassinat, meurtre. Puisque dans l'arène des affaires politiques, il n'y a que des fils des ténèbres qui sont aux affaires. Il va de soi qu'ils promeuvent le standard du royaume des ténèbres. C'est le seul standard qu'ils connaissent. Dans une certaine mesure, il n'est pas juste de notre part de les critiquer, de les dénoncer. Sont-ils vraiment capables de faire autre chose que ce qu'ils font? Où trouveraient-ils les ressources pour gérer les affaires de la société avec justice et équité? Comment s'arrangeraient-ils pour être des pacificateurs, des gens qui procurent la paix, tout en étant déconnectés avec le prince de paix? Église de Jésus-Christ, nous avons un rôle important et irremplaçable à jouer dans la société. Nous sommes l'Ecclésia du Fils de Dieu. À ce titre, le Seigneur nous a établis comme sel de la terre et lumière du monde. Le Seigneur attend de nous que nous impactions la société en implémentant sa vision, ses valeurs, ses principes et son règne sur la terre. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16, il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 13 à 16. C'est à dessein que le Seigneur compare notre rôle dans la société à celui du sel et de la lumière. La métaphore du sel doit nous interpeller au plus haut point, car elle traduit fondamentalement deux choses. D'un côté, elle nous renseigne sur le diagnostic que le Seigneur fait de l'état spirituel de l'humanité. De fait, il la voit comme une humanité malade, corrompue, en pleine décomposition, une sorte de carcasse en putréfaction, dont la désintégration doit être arrêtée en urgence. De l'autre côté, cette métaphore responsabilise l'Église et nous donne d'entrevoir combien importante et urgente est sa mission. Le Seigneur montre que seule l'Église, en tant que sel, peut arrêter la progression du phénomène de la putréfaction. On le sait tous, la vocation du sel comporte trois volets essentiels. L'assaisonnement, la préservation ou la conservation et la suscitation de la soif. Tels sont les principaux volets de la mission de l'Église en faveur de l'humanité pour le compte de Dieu. Outre ce qui a été révélé plus haut, permettez que j'examine un peu plus en profondeur les trois volets de la vocation du sel, afin que cela aide à mieux appréhender la vocation de l'Église en ce qui concerne la société des hommes. Le sel est destiné à assaisonner, cela veut dire qu'il procure de la saveur. Il fait apprécier la vie et ce qui en découle. Certes, le sel symbolise l'efficacité dans l'effacement, l'impact dans l'humilité. Dans une sauce, par exemple, on réalise la présence du sel sans le voir, mais il influe sur le goût, la saveur des choses que l'on consomme. Sans le sel, la fadeur s'installe. La vie devient ennuyeuse, insipide, sans intérêt particulier, sans éclat. C'est exactement ce que la société est devenue. En apparence, les gens affichent la joie, l'embonpoint, mais ils sont vides à l'intérieur. La vie en société est sans saveur. Tout cela parce que le sel ne joue pas son rôle. Le sel a aussi pour rôle d'empêcher la corruption et de conserver les aliments dans leur état d'origine. C'est exactement ce que le Seigneur attend, que son Ecclésia soit pour l'humanité. C'est par nous que la gangrène qui affecte la société devrait être contenue. Hélas. Enfin, le sel génère la soif. C'est connu de tous. En outre, des recherches scientifiques qui ont montré que pour maintenir un taux de sodium équilibré, l'organisme lie naturellement le sel en excès à l'eau et l'élimine par l'urine. En conséquence, plus de sel signifie que l'organisme a besoin de plus d'eau. Les aliments salés donnent soif. La rencontre entre notre Seigneur et la Samaritaine a eu pour effet immédiat de susciter en elle la soif de l'eau que seul Dieu peut donner, l'eau vive, qui deviendrait une source qui coule jusque dans l'éternité. Au regard de tout ce que nous venons de dire, admettez avec moi qu'aucune institution sur cette terre n'est apte à accomplir la mission confiée à l'Église. Vous imaginez le désastre si l'Église, en tant que celle, perd sa saveur? Ce sera un vrai désastre pour Dieu, pour l'humanité et pour l'Église qui n'aura pas accompli son mandat. À la suite de la métaphore du sel, le Seigneur établit aussi que nous sommes la lumière du monde. Dans cette deuxième métaphore, le Seigneur relève d'une part le privilège que nous avons de le représenter et d'autre part l'envergure de la responsabilité dont il nous remet la charge. Car souvenons-nous que plus d'une fois notre Seigneur a affirmé qu'il est lui-même lumière. Dans Jean 8, verset 12 et dans Jean 9, verset 5, il est écrit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jean 8, verset 12 et Jean 9, verset 5. Dans le symbolisme biblique, le Seigneur est représenté par le soleil et l'Église par la lune. De même que la lune doit sa lumière à ce qu'elle reçoit du soleil, c'est de cette façon que l'Église ne peut être lumière que parce qu'elle reçoit de la lumière. Il est à observer que quand le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, nous devons sous-entendre qu'il nous positionne comme la solution au fléau de l'obscurantisme, la matrice de bien des maux dont souffre l'humanité. Il compte sur nous, son Église, son peuple, ses disciples, pour briller tels des flambeaux au milieu d'une humanité vouée à la perversion et à la corruption. En tant que lumière du monde, devons-nous rester cachés sous le boisseau ou sous la table? Non. Le lieu indiqué pour nous, c'est sur la montagne. Si en tant que celle, notre influence peut se propager discrètement, tout en affectant efficacement la société, notre impact en tant que lumière ne saurait se faire dans l'effacement. Je reste convaincu que le désir du Seigneur, en indiquant que nous sommes la lumière du monde, c'est de nous voir jouer des rôles de premier plan. Le pasteur baptiste Martin Luther n'aurait pas agi en étant en première ligne comme il le fut. La société américaine serait inqualifiable sous ce rapport. L'Église doit prendre part à la gestion de la cité. Elle doit le faire étant elle-même assaisonnée de sel et définitivement tirée des ténèbres et constamment en communion avec celui qui est la lumière par excellence. Si en tant qu'Église, nous prenons conscience de la mission qui est la nôtre, il va sans dire que la société s'en portera mieux. À retenir, la politique est la gestion de la cité. En tant qu'Église, nous y avons un rôle à jouer. Notre mission, être le sel de la terre et la lumière du monde. En espérant que nous avons eu une merveilleuse célébration de la Pentecôte, je prie que le Saint-Esprit trouve davantage son lieu en nous, en vue des exploits préparés d'avance pour que nous les accomplissions avec Dieu, selon le psaume 60, verset 14. Excellent début de semaine en Christ. Signé votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce lundi 25 mai 2026.